Bonjour, la Danse des mots aujourd'hui aimerait vous parler des problèmes posés par l'éducation des enfants bilingues. Alors avec nous, Barbara Abdelila Bauer, dont c'est l'un des sujets de prédilection. Vous venez de faire paraître un livre qui s'intitule « Le guide à l'usage des parents d'enfants bilingues » aux éditions de La Découverte. Il y a quelques années, vous aviez déjà édité « Le défi des enfants bilingues ». Vous avez créé une association qui s'occupe de ces problèmes et puisque dans quelques jours, dans quelques semaines, va venir d'abord la semaine des cultures étrangères en France et ensuite la journée européenne des langues, je crois que vous préparez un certain nombre de manifestations. Alors, avant d'en venir peut-être justement à ces problèmes posés par l'éducation bilingue, dites-nous ce que vous allez faire dans les jours qui viennent dans le cadre de ces quelques manifestations.
Alors, dans le cadre de la journée européenne des langues qui a lieu depuis 2001 tous les ans le 26 septembre, mon association qui s'appelle Café Bilingue, centre d'animation et de formation pour l'éducation bilingue et plurilingue et qui a son siège. Oui, c'est long, c'est pour ça
Café Bilingue,
c'est mieux.
C'est bien, Café Bilingue.
Voilà. Et c'est à Paris. Et donc, nous proposons, durant la semaine du 26 septembre, une série d'animations, des ateliers, si vous voulez, pour les parents et enfants et les grands-parents, autour de la question de la transmission des langues. Ça s'appelle « Parlons de nos langues » ou aussi « Parlons nos langues ». Et ensemble, ça sera d'une part au centre d'animation Swan dans le 15e. Ça sera aussi à la Maison des Ensembles aux 3 rues d'Aligre. Là, c'est le 26 et Centre Swan le 27 septembre, l'après-midi. Enfin, les informations sont sur le site cafébilingue.com.
Tout ça, c'est à Paris.
Tout ça, c'est à Paris. Ce sont des animations donc, où on veut réunir les parents et les enfants et on va échanger sur nos pratiques éducatives à la maison, voir quelle langue on parle, comment on parle à nos enfants. Donc, ça s'adresse principalement aux parents qui ont une autre langue que le français ou en plus du français, qui sont plurilingues ou bilingues.
Oui. Et voilà. À qui ça pose donc un certain nombre de problèmes. Il y a beaucoup de questions, j'imagine, qu'on vous pose. Et vous, vous êtes devenue un petit peu experte en la matière, avec des situations qui sont nombreuses et qui sont très différentes les unes des autres. Et il y a des gens qui ne sont pas trop sûrs de leur pratique, qui viennent vous demander un petit peu comment faire, quoi.
Alors, il y a deux cas de figure, en fin de compte. Il y a les familles qui sont très conscientes que le bilinguisme aujourd'hui est un avantage, est un atout, et qui veulent à tout prix, donc, et qui parlent une autre langue que le français parce qu'ils sont eux-mêmes peut-être bilingues. Et là, on s'adresse surtout, il s'agit de langues comme l'espagnol, l'anglais, l'allemand. Et ce sont des parents qui sont conscients, qui veulent donc bien faire pour éduquer leur enfant. Et ce bien faire pose énormément de questions. L'autre cas de figure, ce sont des parents pour qui c'est complètement naturel d'avoir une autre langue parce qu'ils ont grandi dans un environnement plurilingue, dans les pays d'Afrique ou au Maghreb ou ailleurs dans le monde. Et pour eux, ils sont plurilingues parce qu'ils ont grandi naturellement sans réfléchir avec plusieurs langues. Et souvent, à eux, quand ils arrivent donc en France où les enfants sont nés, par exemple, on leur dit parfois, malheureusement encore aujourd'hui, que les langues qu'ils parlent, eux, n'ont pas de valeur et donc il faut se concentrer sur le français quand on parle avec l'enfant. Et là, vous voyez, donc la problématique est différente et les questions des parents sont différentes. Mais même quand on a l'anglais, par exemple, je rencontre des mamans anglaises qui disent « Mais la maîtresse m'a dit, il faut arrêter de parler anglais, il faut parler que français parce que ça va perturber mon enfant. Et je ne comprends pas, je parle pas bien. » Et même pour l'anglais, alors que dans d'autres cas, on dit aux mères, mais vous êtes anglaise et vous n'avez pas parlé anglais avec votre enfant, comment pouvez-vous le priver de cet avantage-là? On a toujours notre inconscient collectif est plein de préjugés, d'idées reçues quant à cette histoire de bilinguisme et des contradictions.
Sur beaucoup de sujets, de toute façon.
Bien sûr,
mais on voit que vous êtes devenue une militante pour le plurilinguisme, qui en effet, de temps en temps, était regardée avec une certaine suspicion, un peu moins aujourd'hui que naguère. Et c'est vrai de façon différente selon qu'il s'agit de telle ou telle ou telle langue, parce que, bien sûr, il y a une hiérarchie des langues et il y a une image des langues qui n'est pas la même selon qu'on parle du berbère, du bambara, de l'anglais ou de l'espagnol, bien évidemment. Mais dans votre guide à l'usage des parents d'enfants bilingues, Barbara Abdelila Bauer, justement, vous montrez bien que quand il y a des parents dont la première langue n'est pas la même, ça pose une question. Comment va-t-on élever notre enfant? Donc, ça veut dire que, avant même que l'enfant paraisse, et quand il est tout petit, Il y a une réflexion. Il y a beaucoup de couples, il y a beaucoup de familles qui essayent de mettre au point une certaine stratégie, en tout cas.
Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, encore une fois, parce qu'on parle beaucoup du bilinguisme, et pour beaucoup, bilingue, ça veut dire réussite sociale, etc. Donc, on se dit, mais j'ai cette langue-là, c'est ma langue maternelle, mais mon conjoint a une autre langue, et ensemble, peut-être, on parle une troisième langue. Donc, comment faire quand l'enfant naît? Et la question, et certains réfléchissent, et parfois, je conseillerais même qu'il est bon de réfléchir avant, comment faire pour transmettre donc nos langues? Et la chose la plus naturelle, je dirais, c'est du bon sens, que chacun parle sa langue maternelle avec son enfant, tout simplement. Mais ça peut poser problème si les parents, chacun ne comprennent pas la langue de l'autre.
Oui. Alors, il y a une situation qui semble relativement simple et que vous abordez à peine d'ailleurs dans votre guide, c'est celle où il y a deux parents qui sont de la même langue maternelle et qui vivent dans un pays dont la langue principale est différente. Par exemple, deux hispanophones qui vivent en France, ou deux anglophones, ou deux arabophones. À ce moment-là, il peut y avoir quand même des conseils plus simples, dans la mesure où il peut y avoir une langue du couple, déjà, qui n'est pas la langue du pays.
Il peut, bien sûr, oui. Pour certains parents, il y a même la question ne se pose pas, parce que c'est leur langue, ils maîtrisent mal le français, donc ils parlent naturellement leur langue avec cet enfant.
Oui. Il y a des gens aussi qui sont dans cette situation et qui maîtrisent bien le français.
Alors là, ça devient plus compliqué. Quand les gens sont dans cette situation, ils ont la même langue et ils maîtrisent bien le français. Après, ça dépend ce qu'on veut, en fin de compte. Certains se disent, je veux quand même que mon enfant reste rattaché à mes racines et puisse parler avec ses grands-parents, les parents qui sont restés dans le pays. Donc, je veux lui parler espagnol, arabe, anglais. D'autres disent, non, nous vivons en France, je ne veux pas perturber mon enfant, je vais lui parler français. Et ça, je rencontre des parents qui parlent même mal français et à qui on a conseillé ensuite de parler français. C'est pas aussi simple que ça non plus.
Quel serait éventuellement votre conseil? Parce que là, si on a, prenons l'exemple d'une famille hispanophone, où le père et la mère sont hispanophones tous les deux, ils parlent espagnol à leur enfant, mettons leur premier enfant, ils vivent en France, il y aura un problème au niveau de l'école. Parce que justement, à ce moment-là, si l'enfant est élevé dans une ambiance tout à fait hispanophone, à partir du moment où il ira à la crèche et ensuite à l'école maternelle, la crèche n'étant bien sûr pas obligatoire, l'école maternelle non plus, d'ailleurs, l'école n'est obligatoire qu'à partir de 6 ans en France, il va se trouver en face d'une langue qu'il maîtrise mal, qui n'est pas sa langue première.
Ce qui n'est pas sa langue première, mais ça ne pose pas de problème, c'est pas un problème. Donc l'enfant qui a deux parents de langues différentes,
dites-vous c'est pas un problème?
Je vais y arriver. Donc l'enfant qui a deux parents qui parlent chacun sa langue, il va devenir bilingue, donc il va acquérir une langue maternelle à deux volets. Donc le bilinguisme sera sa langue maternelle, sa première langue.
Le bilinguisme sera sa première langue.
Voilà.
Qu'est-ce que vous entendez?
Le bilinguisme est sa langue maternelle.
Alors expliquez-vous sur cette formule.
C'est une belle formule et qui reflète très bien le fait qu'on puisse ne pas avoir une seule langue maternelle, mais deux. Et la langue maternelle, qu'est-ce que c'est? C'est la langue de première socialisation. C'est la langue dans laquelle l'enfant est accueilli quand il vient au monde et dans laquelle il est socialisé dans la famille. Et bon, s'il y a deux personnes qui parlent deux langues différentes, il est socialisé dans les deux langues.
J'évoquais le problème où les deux parents même langue.
On arrive. Là, il a donc cette langue maternelle qui est une langue. Ensuite, il va avec... Bon, ne parlons pas du fait quand il va aller à la crèche. Ou bien, il va à la crèche ou chez une nounou, celle-ci va lui parler français. Dans le meilleur des cas, mais cette seconde langue, durant le processus d'acquisition du langage, qui n'est pas fini à 3 ans, par exemple, quand il arrive à l'école maternelle, cette langue va s'ajouter. Bien sûr que l'enfant de 3 ans qui arrive à l'école et on parle autre chose que ce qu'il a l'habitude d'entendre à la maison, ça va être un petit choc pour lui. Mais n'oublions pas, dans le square, il était déjà jusqu'à 3 ans, il était en contact avec la langue française, donc il a déjà entendu, ne serait-ce que dans les médias, dans la rue, etc. Juste seulement là, on va lui parler, il devra s'exprimer et il va progressivement arriver à acquérir cette langue-là. Et la grande erreur serait que les parents, ce que je rencontre souvent, au moment où l'enfant va à l'école maternelle, il va apprendre le français, la grande erreur serait de se dire maintenant j'arrête de parler et je lui parle en français. Parce que la construction de la langue, c'est une construction lente. et qui commence à l'âge, même avant la naissance déjà, cette construction du langage. Et il ne faut pas l'interrompre, il faut que cette construction continue.
Vous allez loin quand vous dites ça commence avant la naissance.
La compréhension commence avant la naissance, on le sait très bien, et les parents parlent.
C'est contesté.
Alors,
certains
il y a des études
disent oui,
là-dessus.
Ah, oui, il y a beaucoup d'études depuis Thomas Tisse, on a dit beaucoup de choses là-dessus.
Oui, tout à fait.
Enfin bon, rien n'est sûr.
Disons qu'il y a des parents qui parlent à l'enfant déjà avant la naissance, et les nouveau-nés de 3 jours reconnaissent la langue de la mère, quand il y a des études qui ont été faites au CNRS à Paris, et reconnaissent la langue qu'ils ont entendue, reconnaissent les sonorités de la langue, ils savent la distinguer. Par exemple, ils sauront distinguer, si la maman lui a parlé en français, ils sauront distinguer le français du russe, des langues très éloignées. Voilà. Donc, et c'est une parenthèse. Ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas arrêter cet édifice-là, de construire cet édifice-là, et au contraire, parler beaucoup en espagnol, si c'est l'espagnol, avec cet enfant, continuer à parler, mais ne pas s'étonner que, petit à petit, la langue française va entrer aussi dans la famille. Elle va enrichir cette famille, et cette famille, et même les parents, s'ils ne le sont pas déjà, ils vont devenir plus ou moins bilingues par le biais de l'école maternelle et de l'enfant.
Abdelila Bauer, on vient d'évoquer un cas qui, en apparence, est peut-être plus simple qu'un autre. C'est celui où on a deux parents qui parlent la même langue et qui vivent dans un pays de langues différentes. Maintenant, quand on a des couples, disons des couples mixtes linguistiquement, c'est-à-dire que, par exemple, on est en France et qu'on a l'un des parents qui est francophone et l'autre qui n'est pas francophone. C'est vrai que ça change la donne et que là, il n'y a pas une méthode qui va prévaloir sur toutes les autres. Il y a des tas de cas de figure différents.
Oui, tout dépend en fin de compte de la volonté de ce parent qui n'est pas francophone. Bon, est-ce qu'il parle
pas
du tout français
au départ,
voilà. Donc souvent, ce qu'on constate, c'est que les pères s'adaptent plus facilement à la langue du pays. Donc les papas ont moins tendance à vouloir transmettre leur première langue. Ils parleront plus volontiers français avec cet enfant parce qu'ils disent on vit en France. Alors que les mères, ce sont celles qui sont un peu les gardiennes du temple linguistique.
C'est pas pour rien qu'on parle de langue maternelle. On sait bien cette épithète est remise en question. C'est pas un mot scientifique. Hein.
Oui, voilà.
Une langue n'est pas plus maternelle qu'autre chose.
Exactement.
Mais si on parle de langue maternelle, c'est qu'en effet, on donne beaucoup d'importance à ce lien de la mère à l'enfant.
Oui, exactement. Et c'est pour ça que les mères, c'est vrai, et c'est très intéressant, elles sont dans la transmission et aussi dans la transmission de la langue. Et bon, ce sont elles, dans nos sociétés traditionnelles, ce sont elles qui sont plus près de l'enfant tant qu'il est très jeune. Et les papas ne savent pas trop quoi faire avec un enfant qui parle pas. Après, ça change. Mais donc, tout dépend de... Je ne voudrais vraiment pas imposer à quelqu'un qui a décidé de parler français avec son enfant de le renvoyer à sa langue d'origine. Mais c'est une question d'abord d'attitude et de volonté. Mais si on a un regret de ne pas pouvoir parler ou transmettre sa langue à son enfant, à ce moment-là, il ne faut surtout pas se gêner, il ne faut pas se priver, il faut parler cette langue. Il ne faut pas attendre. Souvent, on me demande, mais à quel âge je commence à lui parler ? Mais c'est... comme on disait tout à l'heure, avant la naissance ou au plus tard, à la naissance, dès la naissance. Et là, c'est simple, chacun parle sa langue avec son enfant et en toutes circonstances, mais ce n'est pas grave non plus si on passe de temps en temps, si le parent non francophone passe parfois au français et parle parfois français avec l'enfant. Ce n'est pas, bon, il ne faut pas imaginer que... il y a une méthode qui s'appelle un parent, une langue, et puis il y a des parents qui tiennent à maintenir ou à respecter cette méthode à la lettre, ce n'est pas nécessaire.
Mais d'une certaine façon, ça fait revenir le parent qui dont la langue première n'est pas celle du pays, ça le fait revenir un petit peu sur son histoire. Oui. Vous parlez de la nécessité d'élaborer une sorte de biographie linguistique pour savoir où on en est par rapport à sa première langue et comment on va ou comment on ne va pas la transmettre.
C'est vrai que ça peut être parfois douloureux. Une langue, on s'aperçoit parfois que ça va évoquer des... Il y a des choses qui vont ressortir quand on se décide de reparler cette langue auxquelles on ne pensait pas. Et c'est pour ça, parfois, il est préférable, justement, de réfléchir un peu quelle était la langue, quelles sont les langues que je parle, comment je les ai apprises, quand, dans quelles circonstances, qu'est-ce que je ressens quand je parle telle ou telle langue, et la langue maternelle ou cette première langue est souvent liée à des émotions, à des souvenirs et à l'affect.
Et d'une certaine façon, l'apparition d'un enfant peut changer la relation à la langue du parent. Oui. Par exemple, quelqu'un qui vit, bon, prenons l'exemple de la France, une femme peut-être qui vit en France depuis très longtemps et qui a plus ou moins coupé avec sa première langue, qui l'a enfouie, qui a tenu à s'intégrer, qui a tenu justement à parler le français le meilleur possible, avec le moins d'accent possible. Le fait qu'elle a un enfant, ça va renouer d'une certaine façon avec une langue qui a été pour elle sa langue d'enfance.
Tout à fait. C'est ce que je constate régulièrement. Même si on a trouvé un modus vivendi avec la langue du pays ou quand on est un couple mixte, mais la naissance de l'enfant effectivement fait émerger des souvenirs.
Quand on a un enfant, de toute façon, ça vous secoue un petit peu. Et tout à fait, ça change votre identité.
Exactement. Et donc aussi la question de la transmission de la langue, la question comment parler à cet enfant et dans quelle langue, là ça devient vraiment prégnant et parfois ça devient conflictuel parce que à la limite le partenaire ne s'attendait pas à ce que cette langue de sa partenaire ressurgissent comme ça, réapparaissent et il dit mais moi je ne comprends pas et puis même ce côté culturel aussi parce qu'une langue est liée à une certaine manière de se tenir, une gestuelle, etc. Et ça peut être un choc un peu pour le partenaire de découvrir un côté de ce partenaire qu'il connaissait pas mais qui va ressortir et dans certains couples ça mène à un réel conflit où il y a après interdiction de parler cette langue où la maman doit s'enfermer dans une pièce.
Il y a des jalousies linguistiques, vous avez l'impression?
Oui, c'est des vraies jalousies parce que le partenaire qui parle pas cette langue, il a l'impression d'être exclu. Et puis la mère
non seulement il a l'impression d'être exclu
mais
c'est vrai.
Oui. Enfin, il y a des manières d'inclure aussi le partenaire. On peut aussi à chaque fois lui dire un mot ou dire voilà ou répéter la chose dans l'autre langue et puis quand on parle avec un bébé ce sont pas des discours philosophiques donc à la limite on peut apprendre. Il y a aussi des papas, j'en ai rencontré plusieurs qui ont appris les rudiments de la langue de la maman en l'écoutant parler avec le bébé. Oui. Après, bien entendu, l'enfant, elle va dépasser largement le père très rapidement. Mais bon, c'est une manière d'entrer dans une langue aussi.
Est-ce que la compétence du parent qui parle une certaine langue est importante ? On vient d'évoquer Par exemple, hein, le cas d'une mère qui aurait depuis 5, 10, 15 ans quitté son pays d'origine, qui aurait un peu coupé avec sa langue première, ce qui fait que du point de vue du vocabulaire, du point de vue de l'aisance, du point de vue même du rythme de la langue, elle peut avoir quelques difficultés. Ça se verra pas trop, peut-être, avec un tout petit enfant, où on peut revenir à des berceuses, à des comptines, à des chansons, à un langage extrêmement affectif. Mais après, ça peut poser quelques problèmes, si c'est quelqu'un, une femme ou un homme, qui, justement, n'a plus la fluidité quotidienne avec cette langue.
Ah oui, tout à fait. Et la fluidité se perd naturellement, obligatoirement. Et c'est vrai, même l'adulte, donc le parent, doit, pour ainsi dire, se réapproprier cette langue. Et ça, on me le raconte toujours. Quand on a vraiment la volonté de re-rentrer dans sa première langue, de la retrouver, après, il y a différents moyens de la lecture, faire la lecture dans les livres des journaux, etc. Mais c'est vrai que on manque de mots. On perd une aisance et une fluidité, et d'où l'intérêt aussi pour les adultes de retrouver d'autres adultes. Et bon, quand dans les grandes villes en France, c'est facile de trouver d'autres adultes qui parlent la même langue et d'échanger un maximum aussi dans cette langue pour récupérer cette fluidité de la langue et pouvoir la transmettre à son enfant après. Oui.
Alors, Barbara Abdelila Bauer, on peut imaginer justement qu'un parent ne parlera pas toujours la même langue avec son enfant ou avec ses enfants, selon la situation. Si par exemple l'autre parent est là, si des gens qui parlent le français, toujours dans le cas où c'est une famille qui vit en France, sont là, peut-être pour ne pas les exclure, peut-être par courtoisie d'une certaine façon, ne pas recourir à une langue différente. Donc il peut y avoir une alternance de langues de la part d'un même parent avec son ou ses enfants.
Oui, c'est ce que, bien sûr, c'est la façon la plus naturelle de faire. Ce que je recommanderais, alors, ne surtout pas vouloir observer cette méthode, cette fameuse méthode, un parent, une langue, en toutes circonstances, parce que là, c'est vraiment trop rigide, alors que ça existe. Mais je pense que si on veut que l'enfant puisse un jour apprendre, parler dans cette seconde langue, si on est en France, qui est en tous les cas la langue minoritaire, il faut quand même lui donner un maximum de matériaux linguistiques, donc de cette langue, durant les premières années. Il serait... Je déconseillerais d'utiliser ce mélange, de passer d'une langue à l'autre, donc du français vers la langue minoritaire constamment, durant les premières années de l'enfant. On peut très bien instaurer une situation où la maman parle, surtout avec le bébé, constamment en espagnol ou en arabe, même si le papa est là. Et ensuite, on instaure un dialogue à trois où elle parle en français avec le partenaire et dans l'autre langue avec l'enfant. Et quand il a des amis ou de la famille, on peut expliquer ça une fois pour de bon et on le fait. Plus tard, quand l'enfant va à l'école, quand il s'agit de l'aider à faire les devoirs, c'est naturel qu'on va passer au français. Et là, le français va entrer. Mais aussi, donc, il n'est pas du tout nocif qu'une personne parle deux langues avec son enfant. Seulement, c'est une question. Au début, au moins, c'est une question de quantité et d'intensité d'apport.
Alors, qu'est-ce que vous entendez par une question d'intensité, justement ?
Voilà, c'est une question. Au début, au moins les trois premières années, un enfant ne pourra dire des mots ou construire des phrases ou surtout dire des mots que s'il les a entendus. Un enfant ne connaîtra pas le mot stylo si personne lui a dit « Regarde, prends le stylo, tiens, voilà le stylo dans une ou dans l'autre langue. » Donc, plus l'enfant entend parler avec lui autour de lui, et plus il aura un vocabulaire riche et un langage riche et sur lequel il pourra construire après.
Donc il s'agit pas simplement d'un paysage sonore, disons.
Non, absolument pas. Il n'est pas suffisant de bénir un enfant dans une langue, c'est ce qu'on pense souvent. L'enfant qui entend parler autour de lui, ce bain de langage qui ne s'adresse pas à lui ne va pas l'aider à apprendre à parler cette langue. C'est une erreur vraiment très fréquente où on pense il suffit de plonger mon enfant, de le faire entendre une autre langue à la radio, à la télévision pour qu'il apprenne cette langue. Non, le langage va se construire et va s'acquérir en face à face avec la mère, avec le père. Il faut parler avec l'enfant ou parler du livre, regarder des livres, faire des choses avec l'enfant pour qu'il puisse un jour vraiment construire lui-même des mots et des phrases dans cette langue.
Maintenant, Barbara Abdelilah-Bauer, il est sûr que l'enfant a son mot à dire d'une certaine façon. C'est-à-dire que l'enfant peut accepter ce qui lui est proposé ou plus ou moins imposé, et l'enfant parfois peut se barricader, c'est-à-dire qu'il entend parler l'espagnol, l'arabe, etc. Il peut refuser de répondre dans cette langue, il peut répondre en français, et bien sûr sa compétence de compréhension va continuer à s'agrandir, mais sa compétence pour parler à ce moment-là sera un petit peu barrée, parce que ça se joue à deux, le parent ou les parents ne décident pas de tout.
Exactement, exactement. C'est ce qu'on oublie parfois, que c'est on dit le parent dispose et l'enfant...
C'est le contraire.
Voilà, c'est le
contraire.
Le parent
propose et l'enfant
le
dispose.
Le parent propose et l'enfant dispose, ouais. Exactement. Donc le parent doit proposer un maximum de cette langue, on continue à parler avec l'enfant, même si l'enfant a décidé de répondre en français. Pourquoi il répond en français? Parce que c'est la langue de qu'il à l'école, c'est la langue des petits copains, c'est la langue de la maîtresse, c'est la langue qu'il entend partout, et donc il a plus d'automatisme, ça vient plus facilement, surtout quand il rentre de l'école et il veut raconter ce qu'il a fait à l'école, ça lui demanderait un petit effort de transposer dans l'autre langue. Faut le laisser, et il faut continuer à lui parler sa propre langue.
Ben écoutez, merci beaucoup Barbara Abdelilah-Bauer de nous avoir parlé de tout ça et en particulier de votre guide à l'usage des parents d'enfants bilingues. C'est paru aux éditions de La Découverte. Je sais que le 26 septembre, pendant cette journée européenne des langues, vous allez animer un certain nombre d'ateliers. On trouvera tous les renseignements sur votre site ou sur le site d'RFI. Merci bien d'avoir participé à cette émission de La Danse des mots qui est proposée par RFI et par le Centre National de Documentation Pédagogique. Véronique Durand, Lucie Bouteloup, Yvan Hamar.
Merci à vous.